Jean chapitre 17, arrivé au verset 9, dans cette prière qui se poursuit, le Christ dit à son Père, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Nous avions terminé de parler, d'attirer votre attention sur les vérités éternelles contenues dans le verset 6 de Jean chapitre 17. Chemin faisant, on a décortiqué le verset 7, le verset 8, et après avoir décortiqué le verset 9, eh bien, c'était déjà venu le temps de s'arrêter mercredi dernier. Ainsi, aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons progresser dans la lecture, à part dans l'étude, à partir du verset 10. Et parce qu'ils sont à toi, et maintenant verset 10, et tout ce qui est à moi, dit le Christ, est à toi, et ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié en eux. Jean chapitre 17, verset 10. Et je répète, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Jésus dit que ceux qui sont à Dieu le glorifient. Ceux qui sont à Dieu le glorifient. Ceux qui sont à lui, le Fils, qui sont également à Dieu le Père, glorifie le Fils. Hein? Je suis glorifié en eux. Ça veut dire que la foi des disciples en Jésus-Christ comme sauveur du monde, comme fils de Dieu, rend gloire au Fils, glorifie le Fils, exalte le Fils. Hein? Et la foi, la croyance, l'adhésion des disciples du Christ à son évangile de grâce, à son évangile de salut, le glorifie pendant même qu'il est sur cette terre, dans son état d'abaissement. Et plus tard, lorsque après sa résurrection, le Fils de Dieu va monter aux cieux, sa gloire continuera de se répandre sur la terre encore et toujours par l'intermédiaire des disciples, c'est-à-dire de ceux qui croient en lui. Il est glorifié en eux présentement, présentement au moment où il priait, au moment où il vivait avec eux, et il sera glorifié en eux même durant son absence physique, quand il va, eh bien, monter aux cieux pour aller siéger à la droite de Dieu le Père. Il sera toujours et encore glorifié par la foi de ses disciples. Ça me fait me rappeler une vérité que nous proclamons souvent dans l'Assemblée, à savoir que Jésus compte beaucoup sur notre gloire. Hein? Jésus parie sur notre gloire. Jésus compte sur notre gloire. Jésus s'attend à recevoir la gloire, eh bien, de ceux qui croient en lui. Tout le monde qui croit en Jésus, Jésus a pas tant mis à ce que, eh bien, il glorifie par leur croyance par leur foi et la manière de vivre leur foi et la manière de vivre leur croyance. Hein? La manière, le fait de croire et de prouver qu'on croit par notre vie, par la confiance que nous lui faisons, entre autres, eh bien, démontre que nous glorifions Dieu. Et l'apôtre Paul fait de la gloire du Christ la raison d'être des croyants. Paul dit en Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Christ dit qu'il est glorifié en ses disciples. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, Dieu s'attend à ce que par nos vies, eh bien, le Christ continue d'être glorifié alors même qu'il est absent physiquement de cette terre. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à continuer de refléter la gloire du Christ, la gloire de notre Sauveur, la gloire de Jésus-Christ dans un monde ténébreux, dans un monde, eh bien, de confusion, dans un monde rebelle, incrédule, un monde laïque. Le Christ s'attend à ce que ses disciples, eh bien, que nous sommes aujourd'hui, continuent de le glorifier, que notre foi, de la manière dont nous vivons notre foi, le glorifie. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il prend cela pour acquis. Hein? Il dit, je suis glorifié en eux. Gloire à notre Dieu. L'apôtre Paul dira, car Dieu qui a dit, la lumière brilla du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Gloire à notre Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7, mais particulièrement verset 6, la lumière brillera du sein des ténèbres et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire et resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ, gloire à Dieu. Et au verset 11, la parole de Dieu nous dit en Jean 17, je ne suis pas dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Gloire à notre Dieu. Je t'avais dit, les deux mercredis écoulés, que c'est à partir du verset 11 que Jésus allait commencer comme tel à demander des choses pour ses disciples. Et qu'à partir du verset 1 à 10, il parlait de sa relation avec le Père. Il parlait de ses relations avec ses disciples. Il parlait de la grande histoire. C'est ce que je vous avais dit. Et qu'il allait seulement commencer à demander des choses concrètement pour ses disciples. Son intercession comme telle va commencer, hein, comme telle va commencer au verset 11. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Vous voyez, la toute première demande directe, explicite, formelle, c'est au verset 11. Quand le Christ dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Gloire à notre Dieu. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Cette demande va être répétée au verset 15. Je ne sais pas si nous y arrivons ce soir, mais sachez que cette demande va être répétée au verset 15 quand le Christ dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Les préserver du mal et les garder, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Jésus prie pour que ses disciples conserve l'unité qu'il possède déjà en Dieu. Hein? Garde en ton nom tout ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Donc, un, ça parle de l'unité. Cette unité existe déjà, hein, par la présence de Dieu dans chacun de nous. Hein, nous sommes déjà unis en Christ, par Christ et pour Christ, pour la gloire du Christ. Ah, cette unité, c'est l'unité de la vie éternelle que Dieu a semée dans le cœur de chaque disciple. De chacun de ses disciples pour lesquels le Christ prie. Nous sommes unis par l'intermédiaire du Saint-Esprit de Dieu qui habite en chacun de nous. Nous sommes déjà unis. Garde afin qu'il soit un comme nous. Le Christ ne prie pas pour que nous devenions un. Nous sommes déjà un. Ah. Nous sommes déjà un. Nous sommes déjà unis, étant baptisés dans un seul et même esprit, et à une même foi, une même espérance, et à la même vie éternelle, et à la même nature de divine en nous. Nous sommes déjà unis. Il prie pour que nous gardions cette unité, pour que nous maintenions cette unité. Nous sommes unis dans la vie éternelle qui est produite en chacun de nous. Et nous sommes unis en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons un amour commun pour le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons, j'ai parlé tout à l'heure d'une espérance commune, d'une foi commune, d'un esprit commun, mais nous avons aussi un amour commun en Dieu pour le Seigneur. Nous avons un engagement commun envers la parole du Seigneur. Nous sommes unis dans l'affection que nous avons pour le peuple de Dieu. Nous avons plusieurs points d'unité. Nous avons plusieurs points de connexion. Nous avons plusieurs points de ralliement. Nous sommes unis dans notre amour pour le Seigneur. Nous sommes unis en espérance. Nous sommes unis en foi. Nous sommes unis dans la vie que nous avons. Nous sommes unis par celui qui nous a unis, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, dans nos cœurs. Et nous sommes unis aussi par notre mise à part, notre séparation d'avec le monde. Hein? Voilà, eh bien, pour notre unité. Et lorsque le Christ dit, afin qu'il soit un comme nous, eh bien, ce n'est pas que nous devenons, mais c'est que nous restions un, que nous demeurions un, que nous demeurions dans l'unité, dans cette unité dans laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous a placés, mes frères et mes sœurs. S'il arrivait qu'il y en a un qui perde son âme, eh bien, il serait coupé de cette unité-là. Cette unité serait brisée. Et alors, il faut comprendre que garder ici met l'accent plus sur la sécurité éternelle. Hein? Garder ici, tout comme le verset 15, mais l'accent, il faut voir surtout une plaidoirie, une intercession pour la sécurité éternelle. Si c'était garder au sens physique du terme, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas parler de toute misère à côté au passé, que tout disciple au passé, peu de temps après que Jésus finit de mourir, il finit de monter au ciel, il finit de ressusciter. Donc on a une misère martyre que vous connaissez. On a prêché déjà sur martyre que vous connaissez. Alors, nous comprenons par là et par d'autres passages bibliques que la préservation que le Christ demande ici, c'est la préservation de l'âme de ses disciples, de leur vie éternelle, de leur sécurité éternelle qui est demandée ici. Hein? C'est très important de comprendre cela. Si vous ne comprenez pas cela, vous perdez le reste. Vous allez perdre. Et quand il dit, afin qu'il soit un comme nous. Hein? S'il y en a un dont l'âme est perdue, l'unité est brisée. Hein? C'est une chaîne. S'il y a un maillon de la chaîne qui devait sortir de la chaîne, eh bien, le maillon et la chaîne est brisé. Hein? Et ce n'est pas possible. Alors le Christ prie pour la sécurité de ton âme. Le Christ prie pour la sécurité de mon âme. Le Christ prie pour l'intégrité de l'Église, pour la sécurité de l'Église. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux, dit le Christ en Jean 17, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Ouais, ça peut être de là. Ouais, ça peut être de là. Ouais, on parle ici de sécurité spirituelle, hein, de sécurité éternelle, de la sécurité de l'âme, plus que la sécurité du corps. Hein? Même si nous savons que Dieu se porte garant de la sécurité de notre corps également. Mais ici, le Christ prie particulièrement pour la sécurité et de l'âme. Sinon, le fils de la... Ouais, voyez-vous? Sinon, le fils de la perdition. Ah, il met en opposition la chute de Judas avec la préservation des autres disciples. Oui, ça me dit là. Oui, c'est pas quoi qu'a parlé, c'est pas sécurité physique qu'a parlé là. Hein? Il met en opposition la chute, la perdition de Judas, hein, le fils de la perdition. Il met sa perdition en parallèle avec, eh bien, la préservation, la persistance dans la vie éternelle des onze autres disciples, voyez-vous? Donc, c'est très important de comprendre de quoi est la question. Gloire à notre Dieu. Sinon, le fils de la perdition, le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Gloire à notre Dieu. Jésus présente son bilan au Père. Il présente son bilan au Père. Le seul capable de présenter un bilan dit, un bilan honorable, un bilan qui correspond à la réalité, un bilan absolu, absolument vrai. Gloire à notre Dieu, un bilan impeccable. Il présente son bilan. C'est pas seulement ici qu'il l'a fait. Il l'a fait en haut également, depuis le verset 1 à continuer. Il continue de le faire. Gloire à notre Dieu. Au cours de son ministère terrestre, le Christ dit qu'il a gardé ses disciples en parfaite sécurité. Gloire à notre Dieu. En sorte que aucun d'eux ne s'est perdu. Un seul. Il dit, Seigneur, je fais ma job. Je fais mon travail. J'ai accompli mon mandat. J'ai accompli mon ministère. Gloire à notre Dieu. Et il y a un seul est perdu. C'est Judas Iscariote, hein, comme vous vous en doutez bien, le fils de la perdition. Comment le Christ a-t-il gardé ses disciples? Il a trimé Dieu pour les garder. Il a prié pour eux. Jusqu'à présent, il continue à prier pour eux là. Il a prié avec eux. Il leur a enseigné. Il leur a clarifié la parole. Il leur a expliqué des paraboles qu'il n'a pas expliquées aux grands de la terre, aux grands prélats de ce monde. Il y a des choses qu'il ne leur a pas expliquées, mais lui, il leur a expliqué. Il leur a donné sa puissance. Il les a protégés contre les attaques des autorités juives qui ne voulaient pas de lui et par conséquent qui ne voulaient pas d'eux autres, c'est-à-dire des onze. Et par sa puissance, il les a préservés. Alors, le Christ dit la vérité au Père. Le Christ ne ment point comme il ne peut pas mentir, comme il lui est impossible de mentir. Il ne ment point quand il dit au Père, j'ai accompli la tâche. Je les ai gardés en parfaite sécurité. Oui, il gardait ses disciples de toutes les façons que je vous ai nommées. On parle ici, je dis, d'une protection qui garantit à ses disciples la sécurité éternelle. Gloire à notre Dieu. Il les a garantis aussi la sécurité contre les dangers de la vie. Il les a gardés aussi jusque-là. On en a parlé, ils vont connaître la mort. des morts atroces. La plupart d'entre eux, ils vont connaître la maltraitance, on en a vu. On a parlé de ça beaucoup, beaucoup. Mais à ce jour où ils priaient, mais oui, il les a gardés en parfaite sécurité, et pour leur corps et pour leur âme. Mais particulièrement pour leur corps. Même si le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ce qui est arrivé avec ces hommes-là. Le malheur les a atteints, mais le Christ a su les délivrer à chaque fois. Gloire à notre Dieu. Et le Christ de dire toujours au verset 12, gardez tout le monde impeccablement, gardez tout le monde en parfaite sécurité, mais là devant, là, gardez au Père, où est allé, où est venu, mais ils sont tous là. Ils sont tous les 11, ils sont tous les 11 là. Ils ont seul qui perdu, c'est ça que tu dois perdre. C'est-à-dire le fils de la perdition, le fils de perdition. Seul Judas est perdu. Pas un autre est perdu. Simon-Pierre, André, Jacques, Frère Jean, Philippe, Thomas, Matthieu, Thaddée, Simon, Judas, tout le monde là, ce jeudi soir-là. Pas un serviteur de Dieu n'est perdu. Dans tout cela, gloire à notre Dieu. Et les détracteurs de la foi évangélique se plairont à dire que Jésus n'a pas gardé Judas parce qu'il était incapable de le faire ou parce qu'il n'était pas un bon Dieu, comme on dit qu'il est le bon Dieu. Mais vous aurez compris que c'est n'importe quoi. Vous aurez compris que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Il a le Christ, le Fils de Dieu, a la puissance nécessaire pour garder Judas, mais Judas n'était pas gardé, non pas par manque de puissance ou de bonté du Christ. Judas n'est pas gardé. Il aurait pu être gardé comme les autres s'il n'avait pas choisi le chemin de la perdition lui-même. Voilà, c'est tout. Le Christ savait depuis l'éternité que Judas était le fils de la perdition. Voilà pourquoi Judas n'est pas gardé. Il était voué à la perdition. Il a choisi le chemin de la perdition. Hein? En choisissant de trahir, de livrer le Fils, le Saint-Fils de Dieu, eh bien, Judas a choisi le chemin de l'enfer, le chemin de la perdition, par son choix. Afin que l'Écriture fût accomplie. Dieu n'a pas mis Judas à part pour l'enfer. Judas a choisi l'enfer. Judas est responsable de son choix. Quand l'Écriture dit qu'il est le fils de la perdition, ce n'est pas Dieu qui l'a mis à part pour la perdition. Il a choisi le chemin de la perdition en acceptant de livrer le Fils de Dieu, le Saint-Fils de Dieu, pour 30 pièces d'argent. Frères et sœurs, mes bien-aimés, et les bourreaux du Fils de Dieu ont reconnu en Judas leur allié. Alors, s'ils ont crucifié le Fils et avec l'aide de Judas, alors c'est tout à fait normal que Judas, eh bien, soit perdu. Il est perdu par son choix, le choix qu'il a fait pour sa vie, mes frères et mes sœurs. Donc, voilà pour le verset 12. Voilà ce que le Fils de Dieu entend quand il dit: j'ai gardé tout le monde sauf le fils de la perdition. Mais voilà. Verset 13, Jean chapitre 17. Chers amis internautes, chers amis de l'oratoire, mes frères et mes soeurs en Christ, on est à Jean chapitre 13, à chapitre 17, on est au verset 13. Il est écrit, le Christ prie en disant: mais, et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le il au pluriel, mais toujours est-il, c'est les disciples du Christ pour lesquels il prie. Et alors le Christ laisse à ses disciples sa joie. On a déjà regardé ça quand on étudiait le chapitre 16 et le chapitre 15. C'est sa joie qu'il les a laissés, hein, afin que ma joie, très important, hein, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ma joie parfaite. Ce n'est pas n'importe quel genre de joie. Ce n'est pas n'importe quel genre de paix, de satisfaction. Hein. La joie est synonyme de la paix. Ce n'est pas n'importe quel bonheur. C'est sa joie. Sa paix. Son bonheur. Sa satisfaction. Le Christ-Esprit qu'ils aient en eux. Hein. C'est la joie qui est enracinée dans le Christ. La joie qui est le fruit que donne l'Esprit du Christ. On en a parlé samedi dernier au jeûne de prière dans la méditation. On s'en rappelle. C'est la joie que le Christ a lui-même expérimentée. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2, la joie qui lui était réservée, qu'il a expérimentée. Une joie qui ne repose pas sur les circonstances immédiates, les circonstances difficiles de la vie. C'est cette joie que le Christ laisse à ses disciples, que, en tout cas qu'il prie que ses disciples aient en eux, frères et sœurs. Une joie qui repose sur les desseins éternels de Dieu le Père. Une joie qui n'est pas passagère. Une joie qui n'est pas, qui pachita, eh bien, soit ça nous capable y ou ça nous capable posséder. Mais yon joie qui chita sous obéissance parfaite. Une obéissance qui plaît à Dieu le Père, frères et sœurs. Donc, tous les enfants de Dieu ont accès à la joie du Christ, parce que, comme je l'ai dit, la joie, c'est un fruit de l'Esprit. La joie fait partie du fruit de l'Esprit, et nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Mais maintenant, il n'en tient qu'à nous de vivre cette joie, de vivre cette joie. Mais nous l'avons déjà plantée en nous, mes frères et mes sœurs. Voilà. Pour le verset 13, verset 14, Jean chapitre 17, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Ben, c'est normal. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ah, Jésus a donné à ses disciples la parole de Dieu. Jésus a montré à ses disciples la parole de Dieu. Jésus a révélé aux disciples, à ses disciples, la parole de Dieu. Jésus a enseigné, expliqué à ses disciples la parole de Dieu qui est une parole de justice. La parole de Dieu qui est une parole de salut. La parole de Dieu qui est une parole de vérité. Hein, je leur ai donné ta parole. La parole de Dieu qui est une parole de paix, de repos, de vie éternelle. Je leur ai donné ta parole. Il t'a donné aussi sa parole, Laurent. Il t'a donné aussi, le Christ t'a donné aussi la parole du Père. Hein. Vous avez cette parole plantée dans votre cœur. Et maintenant, au moment où je vous parle, le Christ est en train de vous donner cette parole. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous avons lu dans la parole de Dieu que dans le passé, Dieu a parlé par la bouche des prophètes. Hébreux, chapitre 1er, verset 1 à 2, on s'en rappelle. Et à l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, après avoir parlé par des hommes, hein, par des prophètes, maintenant Dieu parle par la bouche de son Fils. Alors le Christ a raison de dire, eh bien, qu'il leur a donné la parole du Père, qu'il a donné la parole du Père à ses disciples. Encore une fois, il présente son bilan. Hein? J'aime cette prière. Il présente son bilan parfait, son bilan parfaitement absolu à Dieu le Père, bilan sans faille. Mais vous savez, vous et moi, que ce n'est pas parce que le Christ a donné la parole que tout le monde l'a reçue. Hein. Depuis l'Ancien Testament, il y avait des gens pour rejeter, hein, pour rejeter, pour refuser le message de Dieu que Dieu proclamait par le truchement des saints prophètes, hein, de l'Ancien Testament. Mais c'était la même chose quand le prophète parfait, quand le prophète ultime est venu, hein, c'est dans le Nouveau Testament pour proclamer la parole du Père, pour expliquer la parole du Père, pour parler la parole du Père, cette parole de vérité, de salut, de justice, eh bien, de repos, de vie éternelle, eh bien, il y en avait encore pour refuser, pour rejeter cette parole. Hein? Vous le savez très bien. Eh bien, le Christ, je vous dis cela pour vous montrer que ce n'est pas rien quand le Christ dit, eux, ils ont gardé ma parole. Hein? C'est tout un exploit, hein? Par grâce qu'ils ont accompli. C'est tout un exploit qu'ils ont accompli par grâce, comme aujourd'hui. Ah, au milieu de plein de gens qui refusent, qui rejettent la parole, il y a toujours vous et moi pour, eh bien, chaque soir, chaque jour, chez vous, avec vos parents, vos enfants, vos maris, eh bien, pour étudier cette parole, pour vous nourrir, pour tremper votre âme dans cette parole, pour pas que votre âme soit asséchée. Vous arrosez votre âme dans cette parole, mais voilà. Non seulement vous avez reçu cette parole pour votre vie éternelle, pour votre justification, pour votre sanctification, mais chaque jour, vous vous abreuvez de cette parole, à la source de cette parole. Vous trempez votre âme dans cette parole. Les temps n'ont pas changé. Tandis qu'il y en avait pour refuser cette parole, il y avait les disciples du Christ pour recevoir cette parole et la garder précieusement dans leur cœur, hein, afin de ne pas pécher contre Dieu. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs. Eh bien, le Christ a été rejeté avec toute parole liée. Lui, comme parole incarnée, a été rejeté. Et la parole révélée qu'il a proclamée a été rejetée aussi. Hein? Hein? Et Dieu merci, contrairement au monde qui a rejeté le saint message du Saint-Fils de Dieu, du Saint Sauveur du monde, contrairement à ceux-là dans le monde qui ont eu le culot de rejeter le saint message du Saint Sauveur du monde, ben, il y avait un faible reste pour recevoir cette parole joyeusement, allègrement, et la garder dans leur cœur. Gloire à notre Dieu. Et le Christ de rajouter toujours au verset 14, mais sans surprise, eh bien, pour cette raison, parce qu'ils ont reçu cette parole et l'ont gardée, ben oui, c'est tout à fait normal, ça va de soi. Le monde les déteste. Il les déteste comme il déteste le prophète ultime qui prophétise cette parole, qui proclame cette parole. Il n'y a pas de surprise, hein. C'est lui qui donne la parole, ils ne veulent pas de lui, alors ils ne veulent pas de ceux qui reçoivent la parole, aussi simple que cela. Et après tout, ils ne sont pas du monde. Hein. Après tout, ils ne sont pas du monde comme toi et moi, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs. Comme les disciples, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de l'esprit, vous songez ça? Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut et nous sommes nés de l'esprit. Et notre citoyenneté n'est pas terrestre. Ben oui, tu as la citoyenneté canadienne, oui, c'est vrai, mais quand même, ultimement, vous avez une double nationalité, OK? Vous avez une double nationalité, peut-être même une triple nationalité, vous avez la nationalité, la citoyenneté haïtienne, peut-être, la citoyenneté canadienne québécoise, et vous avez la citoyenneté céleste. La citoyenneté céleste, gloire à notre Dieu, la citoyenneté de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est très important de comprendre cela. Alors, et nous ne sommes pas du monde. Hein, nous ne sommes pas du monde. C'est en ce sens que je voulais expliquer le fait que nous ne sommes pas du monde. C'est sérieux, hein? Ce n'est pas, c'est une vérité absolue. Hein? Nous ne sommes pas du monde. Koto nous est là. Nous voyageons entre le ciel et la terre. Lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous sommes en train de penser à Dieu, lorsque Dieu est en train de penser à nous, c'est dans le ciel, nous, ça a fait ciel, là. C'est là, c'est le côté de citoyen céleste qu'a parlé. Les moins avec nous, nos situations présentées, puis qu'on nous détruit, et puis nous monter, là, ils viennent mettre nous dans le ciel là, et bien tout ça traduit la réalité, et bien de la citoyenneté céleste. C'est pas n'importe quoi d'en parler là, c'est sérieux, hein? Et c'est vrai, hein? Et nous avons cette citoyenneté céleste à ne jamais oublier. Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. J'ai déjà enseigné ça dans la congrégation et nous sommes passagers dans ce monde. Nous sommes dans le monde. Manger dans le monde là, nous faire épicerie dans le monde là. Nous avons dit ça déjà au songer. Nous entendons des musiques dans le monde là. Nous lisons les livres dans le monde là. Nous syndiquer dans le monde là. Quoi d'autre encore? Nous faire politique dans le monde là. Nous voter dans le monde là. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes citoyens des cieux. Hein? Nous sommes citoyens des cieux. Pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas nés du monde. Ben oui. C'est pas comme ça. Nous ne sommes pas du monde là. Pas du monde, parce que pas qui tomber à terre, non? Ou sommes dans celle tomber à terre. Donc, bon processus, bon histoire, oui. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de nouveau. Incidemment, Paul dit, nous sommes, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est comme ça, non pas du monde là, oui. On ne peut pas comme c'est à nous pour nous faire chelbet ou bien prétention. Non, ce n'est pas prétention. Non, là, nous ne sommes pas de ce monde-là. On ne peut pas être sérieux, oui, qui ont une histoire spirituelle, théologique, biblique là-dedans. Nous ne sommes pas du monde parce que nous ne sommes pas nés de ce monde. Nous sommes nés d'un père haïtien, québécois ou autre, d'une mère haïtienne, québécoise ou autre. Ça, c'est un côté de la chose. Ça, c'est la naissance biologique. Mais du point de vue de la naissance spirituelle, nous ne sommes pas nés du monde. Nous ne sommes pas nés d'hommes et de femmes. Nous sommes nés de l'esprit. C'est l'esprit qui a opéré le miracle de la circoncision de notre cœur. Le miracle de la régénération, ce n'est pas un homme, une femme qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a opéré ce miracle. Le miracle de ramollissement de notre cœur, de nous donner un cœur nouveau. Une vie nouvelle, par conséquent. Tu n'es pas de ce monde seul. Ou prends tracas dans le monde là, ou prends problème dans le monde là, ou prends détestation, persécution dans le monde là, mais tu n'es pas de ce monde, frère. Et ça doit être gravé dans l'esprit. Chaque soir fait, chaque potoyer, chaque soir dit, chaque soir enduré, on doit faire à la lumière de cette vérité-là. Et tu n'es pas de ce monde. OK? Verset 15. Bon, on ne va pas rester sur le verset 15 parce qu'on en a parlé en quelque sorte quand on parlait du verset 10, si je ne m'abuse. Hein? Quand on parlait du verset 11, pardon. Et en verset 15, où le Christ demande au Père. Ceci, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Hey, gloire à notre Dieu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus prie pour ta sécurité encore une fois, OK? Il prie pour la sécurité de ton âme, ta sécurité éternelle, ta sécurité spirituelle. Il prie pour ta sécurité physique. C'est important de comprendre cela. Même si nous ne sommes pas du monde, le Christ ne veut pas que le Père nous sorte du monde. Hein? Hein, on peut, il a plu à Dieu, il plaît à Dieu de nous laisser encore dans le monde. Ou au moment où il parlait de ses disciples-là, à son Père, il priait encore que Dieu les laisse dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission pour eux envers le monde. Hein? Et il n'était pas question de les enlever, de les sortir du monde. Il a fallu qu'ils proclament la bonté, la grâce, la fidélité de Dieu à travers la proclamation de l'évangile. Je ne te prie pas de les ôter du monde, parce que les croyants doivent apporter l'évangile, la bonne nouvelle aux âmes perdues de ce monde. C'est là, même moi-même avec vous, qui était encore toute l'église là, pour en VA, on t'a parlé ça déjà, mais c'est parce que mon homme, monde qui est pour tendre l'évangile, elle pour tendre l'évangile. Et tout le monde qui doit tendre l'évangile, tout le monde, non, le monde entier finit tendre l'évangile, alors, eh bien, ce sera la fin. Et ce sera aussi l'enlèvement de l'église, frères et sœurs. C'est la principale raison pour laquelle on est là encore. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Et puis, Paul dit, comment invoqueront-ils donc celui en qui Ils n'ont pas cru. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Voyez-vous, donc ça prend l'Église. Autrement dit, l'Église, ça prend l'Église. Ça prend vous. Ça prend vous. Ça prend moi. Ça prend les autres chrétiens en Asie, en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique latine, dans les Caraïbes, où soit d'autres, en Europe. Ça prend l'Église pour saler le monde, pour éclairer le monde. Alors, il n'y a pas un monde là, mais quittez au là, parce qu'ils ont un travail à accomplir dans ce monde. Si ce n'est pas eux-mêmes, eh bien, il faut le Christ à tourner encore une fois ce travail-là. Alors, c'est pour ça que je ne te prie pas de les enlever du monde. Voyez-vous? Il y a bien important de comprendre cela, mes frères et mes sœurs. Et il y a toujours au verset 15, comme au verset 11, le Fils de Dieu refait la même demande, à savoir que ses disciples vivent ici-bas en étant préservés du mal. Satan, le diable, les bacas de ce monde, le monde de l'enfer, le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres, le royaume diabolique, satanique, serait très heureux de détruire la foi des croyants. Oh! Il serait très heureux de détruire la foi des disciples de Dieu, de détruire l'Église, de détruire la foi de l'Église. Ah! Le royaume des ténèbres, Satan, le diable et ses alliés, les démons, les hordes de démons qui sont à sa solde, seraient très heureux de voir, eh bien, les chrétiens s'en aller, chuter, abandonner la foi. Ou alors, ils seraient très heureux de les ravir à Christ, le Fils de Dieu, à qui Dieu a donné l'Église. Hein? Vous savez, Jean-Jésus répétait ça plusieurs fois, tu me les as donnés, ils étaient à toi. Satan t'a bien aimé racheter au nom de Jésus, si cela était possible, frères et sœurs. On se souvient comment il a fait pour arracher Job de la main de Dieu. Il fait Job perdre toute sa plus chère à Job, toute sa plus précieuse à Job. D'après lui-même, ignorant qu'il était, il pensait qu'il pouvait arracher Job de la main de Dieu. Job abandonnerait Dieu parce que Dieu, eh bien, dans sa tête à lui, là, l'a laissé perdre, eh bien, tout ce qu'il avait de plus précieux dans la vie. Il n'a pas réussi. Il est retourné bredouille. Hein? Il n'a pas réussi. Il a accablé Job, certes. Il a déstabilisé Job, pourquoi pas. Il a même déstabilisé Job. Il a créé l'amertume dans le cœur de Job. Job est devenu amer contre la vie, contre Dieu pendant un temps. Ouais. Il a rempli le cœur de Job de chagrin, d'amertume, de désespoir, de découragement. Mais au final, Job s'est repris et Job a démontré par sa conduite, par ses réactions, eh bien, qu'il est impossible à Satan le diable de détruire la foi que Dieu donne, la foi que Dieu plante, l'amour que Dieu plante dans le cœur de ceux, eh bien, qui sont à lui. C'était impossible. La foi de Job a été préservée. Hein? La vie éternelle de Job a été préservée. Le salut de Job, la justification de Job a été préservée. Hein? Gloire à notre Dieu. La confiance de Job a été préservée. Et finalement, Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Parce qu'il te fait quelques écarts de conduite. Ça arrive. Mais dans le fin fond des choses, il n'avait pas abandonné la foi. Il avait des questionnements, il s'est laissé emporter par certains questionnements, mais il a tenu bon. Le verdict de Dieu à son sujet, c'était qu'il avait tenu bon. Gloire à notre Dieu. Mais malgré cela, l'homme de Dieu qui est un homme pieux dit, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Gloire à notre Dieu. Et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est reproduit dans le Nouveau Testament. Et pas nécessairement, pas seulement avec le Christ, le Fils de Dieu, dans le désert, mais aussi avec l'apôtre Pierre. Et Satan, comme il l'a fait à l'égard de Job, Satan a cherché à détruire la foi et la vie spirituelle de Job. Hein? l'amour de Job pour Dieu, l'attachement de Job à Dieu et de Pierre à Dieu. Incidemment, le Christ dit à Pierre, Luc chapitre 22, verset 31 à 32, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et mais regardez bien, quand il dit pour vous cribler, là, il n'a pas dit pour te cribler. Il dit pour vous cribler. Ça veut dire que ce n'est pas juste Pierre que Satan réclamait pour le craser. C'est tout disciple, OK? Ou pas, ou pas, ou pas, technicalité ça dans le texte là. Ou pas, subtilité ça dans le texte là. Regardez bien. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous, vous a réclamé. C'est pas Pierre. Si c'était Pierre, t'as réclamé. Pour vous cribler, comme le froment. Regardez bien. Ou pas, le côté pasteur guérison. Regardez. Mais j'ai prié pour toi. Voyez-vous? Afin que ta foi, il dit vous, c'est tout 11 disciples que Satan réclamait pour le cribler. Et il dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ou t'as dit, pour qui ça? Il dit, il priait, vous a réclamé, et puis il priait pour toi, pour le monde au singulier. Mais parce que Pierre est particulièrement visé par l'adversaire. Alors, même il a prié pour tout le monde, mais il a particulièrement prié pour Pierre. C'est ça que ça veut dire. Et, ou même avec moi, pour qu'on comprenne pour qui ça, Pierre est visé en particulier, c'est lui qui est le pasteur du collège des apôtres. C'est lui le chef du collège, le leader du collège des apôtres. Alors, il est visé en premier. C'est normal, pasteur visé en premier. Alors, ici, c'est la même chose. Pierre est visé en premier. Il connaît qui ça va confier Pierre comme mandat. Alors, il prie, Pierre est attaqué, est visé particulièrement par le royaume des ténèbres. Eh bien, il prie particulièrement pour Pierre, mais en réalité, c'est tout le monde qui visait et c'est pour tout le monde que le Christ prie. Gloire à notre Dieu. Bon, Pierre a connu un moment de chute, mais vous et moi, nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons comment ça s'est terminé. Et Pierre s'est repenti, Matthieu 26, 60, et 75. Et le Christ va rétablir Saint-Pierre, eh bien, dans sa position de leader du collège des apôtres. Satan n'a pas eu raison et de sa foi, ni du plan de Dieu pour sa vie. Et gloire à notre Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Il est 51, j'ai de la matière encore à partager avec vous dans le Seigneur et par sa grâce. Mais je vais aller tout le temps pour finir après l'heure. Alors je dis à. Moi, j'étais là, même si le moins 11, si tu as des choses à partager, des expériences à partager, des suggestions à faire, ou des questions à poser, c'est le temps de le faire. Je vais simplement arrêter l'enregistrement afin que vous puissiez prendre l'antenne et parler ce que le Seigneur vous met à cœur de parler. J'arrive tout de suite.